Vous écoutez Erdiwa sur la fréquence 107.5 ou sur www.rdwa.fr. Plantule et compagnie. Une émission qui permet de découvrir ou redécouvrir chaque semaine une plante de nos contrées que l'on peut cueillir, manger ou transformer. Bonne écoute.
Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone.
Aujourd'hui, nous étudions
l'églantier,
la rose des chiens, Rosa canina, de la famille des rosacées. J'ai bien l'impression que certaines personnes qui pensent avoir passé l'âge d'être rigolo, fausse illusion d'ailleurs, ne regardent même plus cette plante. On a retenu l'adage, le nom, celui de gratte-cul, pour signifier cette petite boule rouge que l'on gratte sur la peau des copaines à l'école, pour leur faire une blague ou les emmerder. Urticante cette petite chose. On a retenu donc que ça, qu'il ne fallait pas l'avaler, le gratte-cul, s'il piquait tant l'épiderme. Et pourtant. Avec un peu d'effort et de curiosité, on peut retourner sa chemise, se sortir de sa zone de confort, autrement dit, arrêter d'aller acheter des conneries dans des magasins nuls et faire du gratte-cul son ou sa pote de balade, un et une alliée des chemins. Car non seulement on en fait un tas de transformations, les anciens et les anciennes le savent bien, mais l'on peut aussi manger son fruit, hop, comme ça, en pleine nature, lors de promenades rêveuses ou de randonnées acharnées. C'est plutôt sympa, non? C'est Zaza, la belle voix que vous allez entendre, qui nous explique rapidement comment on s'y prend pour se nourrir de gratte-cul.
Ces églantiers. Alors, ça ressemble plutôt à une ronce, je dirais, de loin, regarde. Enfin, ça donne pas trop envie de s'y piquer. Mais en même temps, c'est quand même moins méchant qu'une ronce. Et du coup, alors l'églantier, ça donne vraiment pas envie. Moi, ça m'inspire vraiment, je pense, de ce que j'ai appris un peu à quelque chose de pas comestible, quoi. Et pourtant, c'est si doux. Alors, pour le consommer, il faut attendre qu'il soit un petit peu plus flétri, un petit peu plus mûr. Là, on voit qu'ils sont encore tout lisses, donc ils sont pas mous du tout. Donc, normalement, touchez-les. Et du coup, pour consommer le petit églantier, il faut enlever la partie du haut qui relie la tige au fruit. Donc il faut l'enlever et normalement justement là on sait s'il est bon ou pas parce qu'il suffit de le presser normalement pour pouvoir ressortir l'intérieur du fruit. Et c'est très important de ne pas manger les petites graines et le petit contour des graines où on voit en fait qu'il y a des petits poils dessus parce que c'est hyper urticant et c'est très désagréable. Donc en fait au final il faut manger je dirais qu'un dixième de ce qu'il contient quoi le fruit. Et c'est très très doux contrairement à l'apparence qu'on en a. On s'en
fait. Pour s'en nourrir, encore faut-il le reconnaître. Je vous invite pour une balade poético-botanique. Suivez-moi. Bruit de vent, des pas dans les feuilles, bruit de ronces, d'oiseaux. Églantier, tu n'as pas peur du froid. En automne, tu délaisses les tissus qui te parent, tu nous laisses perplexes, nous promeneurs heureux, face à ton corps dévêtu. Épineux, élancé de ta base racinaire, en arc de cercle dans un saut de l'ange vers des cieux, tes feuilles qui se dorent des caresses charnelles de l'été tombent et le sol les ramasse. Stipulé, tes feuilles sont accompagnées de deux amis fidèles qui sont tes deux repères, deux stipules, deux petites croissances vertes, à la base de ton pétiole, complices de tes tiges souples. Tes feuilles composées sont un assemblage simple, de grande subtilité. Une symétrie douce qui aère tes branches sombres, sur ta tige s'alterne 5 à 7 folioles ovales à marge dentée, dents d'une menthe fraîche ou d'un vieux rosier. Glabre, tes folioles n'esquissent ni poils ni pénombre. 5 pétales bien découpés, blanches rosées. Ou rouge cœur sont les couronnes de douceur qui trônent sur tes aires de ronces. Florale est ta danse lorsque le printemps fête l'heure de sa chanson. Tu ne peux pas résister, toi non plus, à arborer tes tiges de fleurs aux odeurs de roses qui appartiennent aujourd'hui à un temps révolu, feuillage caduc. Tes fleurs tombent vite au sol, joyeux récepteur du délicat présent. Comme il est des temps plus sérieux, d'un mélancolique repos, comme l'automne et les manteaux, tu te joues des airs de monotonie perfide et préfères charmer les paysages gris. En transe superbe, tu portes donc le rouge sur tes fruits sucrés, lèvres peintes, et l'églantier devient rose, ensauvagé. Et quand tu formas tes graines, tu les enveloppas dans ce qu'il restait de tes fleurs. Tes fruits sont alors de petites casanières, une vingtaine, qui sommeillent dans l'enveloppe appelée cynorhodon, enveloppe pulpeuse, faux fruits, que l'on récolte après les gelées, acidulées, sucrées, délicieux bonbons des haies. Ovoïde allongé, rouge orangé à maturité, ouvert au sommet, ton cynorhodon porte les restes desséchés de tes étamines et de tes sépales. Il enveloppe des akènes issus de la transformation des carpelles, deux termes botaniques complexes qui nous rappellent comment la sexualité des plantes est plurielle et belle. Pour mieux te défendre des contacts malhonnêtes, de ceux qui croient arracher sans peine tes faux fruits, tu as glissé sous ta première peau rouge des poils blonds sévères qui heurtent les muqueuses ignorantes. Certains t'avalaient d'une traite, sûrement par mégarde, et ils t'ont appelé gratte-cul, en pense-bête. La récolte de tes fleurs est l'honneur du mois de mai, de tes fruits l'affaire de l'automne. Persistants, ils seront présents tout au long de l'hiver et tâcheront le tableau blanc des cotons de neige, leur pulpe molle, leur chair ramollie, ils seront plus blettes, et alors on les mangera sur pied, dans un délicieux regard sur l'églantier.
Enfin, moi, personnellement, oui. Après, je m'intéresse un peu aux plantes sauvages et tout ça, donc non, pas trop. J'aimerais bien, justement, me mettre un peu plus là-dedans. Je cherche des personnes avec qui je pourrais faire ça, et voilà. C'est une très bonne question, parce que bah, je pense que je prends pas le temps. Et bah, c'est surtout, je pense que je prends pas le temps personnellement, c'est surtout ça.
Non, oui. Non, parce que bon, je ramasse pas, c'est tout. Voilà.
Oui, je pense. Je pense que c'est la. Au départ, c'est la rose sauvage. Voilà, et il n'y a qu'une rangée de pétales. Par contre, je ne connais pas trop les vertus. Non. Je sais le reconnaître dans la nature. Voilà, c'est à peu près tout.
Le chêne, c'est ça. Non, l'églantier, non, c'est le rosier sauvage. Voilà, non. Ouais, parce que j'en ramasse pas, j'ai pas le temps, voilà, je préfère prendre ceux du jardin. C'est-à-dire les fraises, les groseilles, les machins comme ça, voilà.
On m'a dissuadé de m'intéresser à cette plante, en me disant « Tu vas t'emmerder à faire de la confiture de ce truc-là, c'est super long, faut retirer tous les poils, etc. » L'excuse suprême, le temps. Non, je n'ai pas le temps, je ne prends pas le temps. Le temps a bon dos, et si nous décidions de le prendre ? Et alors moi, un peu désespérée, je me suis détournée de l'églantier pendant un bon nombre d'années. Je n'avais pas le temps non plus. Depuis peu, je me dis que je suis passée à côté de quelque chose, que cette espèce de ronce abondamment présente dans nos contrées n'est sûrement pas inintéressante comme on me l'a fait croire, mais bien une merveille de la nature comme elle en compte tant. Ce qui m'attire vers elle, en ce mois de novembre, c'est la couleur rouge vive des cynorhodons dans un paysage feuille à terre et qui avance vers l'hiver.
Ah ben, et l'églantier, c'est ce que je recommande à tout le monde, tous les jours, au minimum une fois par jour. Et je le présente sur le marché, juste en face du Café de Paris, sur mon stand, On peut commencer de le manger à partir de maintenant. C'est vrai qu'il est meilleur quand on appuie un petit peu que la pâte sort. C'est souvent après le premier gel, mais pas forcément à ce moment-là. On enlève juste le petit bout, les petits poils de, qu'on appelle les gratte-cul. Et on enlève ça, on met tout ça dans la bouche. On peut tout avaler ou bien recracher simplement la peau et les noyaux. Et avec ça, on a sa dose de vitamine C complètement biocompatible, qui vous donne le meilleur système immunitaire contre tous les virus. Donc si on fait ça tranquillement, on reste un quart d'heure de plus au soleil, on a sa vitamine D, on est OK. Et on ne va pas nous emmerder avec toutes les conneries de virus et de bactéries.
Rosa canina est une espèce probablement très ancienne. C'est une plante pionnière. Elle profite des espaces en friche pour s'installer, accompagnée des ronces, de l'aubépine et d'autres. Et c'est ces installations qui, par le biais d'un long processus, va permettre la colonisation des espaces écologiques nouveaux ou la recolonisation des espaces écologiques anthropisés. On la trouve donc très présente en lisière des sous-bois, dans les champêtres, les talus, jusqu'à 1600 mètres d'altitude, à l'étage supraméditerranéen des Présalpes du Sud, à l'étage collinéen ainsi qu'à l'étage montagnard. À l'origine de son expansion, l'églantier se trouvait dans un espace largement étendu autour de la Méditerranée, comprenant l'Afrique du Nord, les îles Canaries, l'archipel de Madère, mais aussi l'Asie occidentale, l'Afghanistan, l'Iran, l'Irak, la Palestine, le Liban, la Syrie, la région du Caucase, en Asie centrale, au Tadjikistan, au Pakistan. On le trouve également dans toute l'Europe, plus récemment jusqu'en Scandinavie, en Russie et dans les îles britanniques. Il semblerait que cette présence si répandue ait un lien avec l'ancienneté du genre Rosa, dont on a retrouvé des spécimens fossilisés sur le territoire nord-américain datant de plus de 35 millions d'années. L'églantier, Rosa canina, souvent considéré comme un ancêtre des rosiers de nos jardins, se serait largement propagé au cours des 850 000 dernières années, comme j'ai pu le lire sur le site Apicus, où l'auteur de l'article, fruit d'églantier Rosa canina, indique que c'est à cette même période que sont apparus les chevaux, grands consommateurs de cynorhodons, en Asie et en Europe. Et c'est très récemment qu'a été faite la recherche autour des galactolipides présents dans les cynorhodons et qu'ont ainsi pu être mis en valeur les bienfaits de ces faux fruits sur l'arthrose et la réduction des douleurs articulaires. En rendant leurs mouvements plus fluides, les cynorhodons grignotés par les chevreuils, chevaux et autres mammifères leur permettent, je l'espère, de filer à toute vitesse à l'arrivée des chasseurs. De nombreux témoignages de l'utilisation de l'églantier, de ses racines, de ses fleurs, les églantines, et de ses faux fruits, les cynorhodons, nous viennent des temps antiques. L'on en consommait déjà, sous forme de confiture, au Moyen-Orient il y a des millénaires. Hippocrate en écrit les premiers préceptes médicinaux. Il parle d'une plante astringente utilisée pour cicatriser les plaies. Galien, Pline et Dioscoride en font également mention. Dans un texte écrit par Guy du Courtial, Flore magique et astrologie de l'Antiquité, j'ai trouvé un petit extrait sur l'églantier, qui donne à voir l'association que les Grecs faisaient entre cette plante, l'astre lunaire, et la guérison des organes associés. Un point de vue astrologique, entre magie cosmique et connaissance de la plante.
Cette plante guérit les douleurs aiguës qui surviennent sur le buste, l'estomac et les flancs, car la lune est désignée pour être dans le cancer qui domine le buste et les flancs. La fleur de la plante bue de façon continue, purifie les rates gonflées, évacue la cause de l'enflure par l'urine et les excréments. Elle passe pour agir sur la rate, car la lune occupe la place de la rate. La racine de la plante portée en amulette est propre à procurer une vue perçante. Elle secourt avec succès ceux dont la vue est affaiblie, puisque la lune, après le soleil, s'est vue attribuer la lumière des yeux. Elle rétablit ceux dont l'estomac est ulcéré. Elle convient encore à ceux qui souffrent de coliques et se tordent de douleur.
C'est pendant l'Antiquité grecque que s'est construite petit à petit la croyance selon laquelle la racine de l'églantier permettait de soigner la rage, transmise par la morsure des chiens. C'est de cette idée-là que vient le nom scientifique Rosa canina, rose des chiens, la croyance suivant laquelle cette plante contient des pouvoirs antirabiques qui soignent la rage s'est propagée au cours des siècles et ce n'est que très récemment qu'elle fut réfutée. L'incroyable sorcière bénédictine, Hildegarde de Bingen, femme de lettres religieuse du 7e siècle et grande savante des plantes et de leurs effets, faisait l'éloge de l'églantier. Elle lui trouva un pouvoir stomacal, anti-asthénique et de grande aide pulmonaire. Elle préconisait de cueillir à l'aube des fleurs de rosier sauvage et de les placer sur les paupières pour soulager les yeux et stopper les écoulements. L'églantine, en tant que rose sauvage, est marquée par la symbolique de la rose, l'églantier la symbolique des rosiers. Mais cette plante, dont les fleurs sont teintées du sang d'Aphrodite, garde ses propres histoires, ses propres mystères. Du côté de Fort Calquier, d'après les recherches de Pierre Letagui, couper une baguette sur un églantier par une nuit de pleine lune vous permettra de jeter un sort ou d'en annuler un. Cette plante porte des ambivalences symboliques, à la fois lugubres et chanceuses, symboles de passion et de secret. J'ai l'impression que, de tous les conseils mystiques que j'ai pu lire, celui qui prédomine est de veiller à s'approcher de cette plante par les jours de pleine lune, les jeudis de préférence. On connaît la confiture de cynorhodon. On sait déjà moins qu'il est possible de les manger crus, sur place. Et en étant curieuse de l'églantier, j'ai appris qu'il existait des tas de façons de le transformer, de le consommer et de le conserver. Si vous êtes intéressé par cette plante, je vous laisse le soin de cueillir ces informations et je ne vous citerai que quelques petites techniques. La première est la suivante, intéressante puisque c'est une pratique ancienne sur nos territoires. Dans les Alpes de Haute-Provence, on faisait sécher les cynorhodons que l'on moulait pour en obtenir une poudre, une farine utilisée dans la concoction de biscuits. Plus loin de nous, sur le territoire chinois, il est coutume d'aromatiser le thé de cynorhodon et de consommer les fleurs, comme un légume. Feuilles et semences peuvent remplacer le thé, elles aussi, mais il faut s'en méfier et ne pas les consommer en grande quantité car elles attaqueraient le cœur et la moelle épinière. Ce n'est pas rien quand même. Le baie d'égard, curieuse excroissance de l'églantier, est également médicinal. Sur le site Books of Dante, j'ai récupéré un court passage qui le décrit.
Revenons sur un mot. Baie d'égard, aujourd'hui orthographié baie d'égard ou baie d'égoire, est issu de l'arabo-persan badawar, qui signifie souffle de rose, et fait référence à cette sorte de gale verte rougeâtre, en touffe chevelue et hirsute, que portent parfois les églantiers et dont le responsable est un insecte qui pique et pond dans les bourgeons de l'églantier, le synipse du rosier. Diplolepis rosae. De cette excroissance, on a aussi fait matière médicale. Tragus, 1552, et après lui, Simon Poli, 1666, s'en servir comme somnifère pour guérir les plaies et les brûlures ulcérées, apaiser les maux de gorge, affranchir les intestins de la dysenterie. Nicolas Lémery évoque lui aussi le baie d'égard. Il s'agit d'une espèce d'éponge, grosse comme une petite pomme ou comme une grosse noix, de couleur rousse. Elle est appelée éponge d'églantier ou baie d'égard. Elle est astringente, on en tire par distillation une eau propre pour la maladie des yeux.
Il s'agit d'un excellent tonique et d'un astringent, d'où son action sur les plaies et brûlures. Il peut servir comme antifébrifuge pour lutter contre la fièvre ou comme diurétique. Le fruit peut être consommé en infusion, en décoction, en confiture, en sirop, en poudre, en compote, en liqueur. Bref, il possède non seulement les mêmes vertus que le baie d'égard, auxquelles s'ajoutent ses propriétés laxatives, vermifuges et dépuratives. Maurice Mességuet, auteur de « Mon herbier de santé », conseille de conserver les cynorhodons dans un lieu aéré pendant l'hiver, vidé de leurs graines, afin de les consommer au printemps pour nettoyer notre sang des toxines entassées dans notre corps. Comme vermifuge, le cynorhodon a souvent été donné aux enfants, mais aussi aux animaux. Ennemi des vers, avec ses petits poils urticants, il permet de nettoyer l'estomac et les intestins. Et comme je l'ai dit au début, le cynorhodon est consommé spontanément par les animaux sauvages, probablement pour cet aspect, vermifuge, mais aussi pour son action contre l'arthrose et les douleurs articulaires. Il ne faut pas oublier non plus que cette plante, grande amie de notre corps et de notre santé psychologique, porte des fruits qui contiennent une grosse quantité, une très grosse quantité de vitamines. A, E, D, C, etc. Soins des yeux, soins du ventre, la liste est longue, très longue. Donc conclusion, mangez-en. Mangez-en encore, ne vous arrêtez pas. Il y en a de partout et pour tout le monde. N'oubliez jamais d'en laisser pour nos potes les animaux de toute taille, puis pour la terre. Partez le rencontrer lors de vos balades, discutez avec l'églantier, il a plein de choses à vous dire, et je suis sûre que vous aussi. Pour finir, je vais vous lire une petite recette de confiture de cynorhodon qui ne suit pas les méthodes ordinaires. Prenez des fruits bien mûrs, mais qui n'ont pas gelé. Videz-les, coupez-les en morceaux. Arrosez-les de vin rouge et laissez-les macérer 24 heures dans un endroit frais. Pilez le tout au mortier. Faites passer le mélange au tamis pour recueillir la pulpe. Dès lors, pour 500 g de pulpe, comptez 750 g de sucre. Faites sortir le sirop de sucre seul et délayez-y la pulpe hors du feu, de façon à conserver le maximum de vitamine C. Puis, mettez en pot. Préparée de façon ordinaire, la confiture de cynorhodon reste excellente au goût, mais perd trop de ses qualités médicinales.
Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de-ci, de-là, pareil à la feuille morte.
Tu viens d'entendre une petite émission radiophonique sur l'églantier. C'était une production de Nénu sur Orly WA. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour tout savoir sur le gui sur Erdiwa. Nous vous souhaitons à tous une bonne cueillette.
Cette paisible rumeur-là vient de la ville. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de-ci, de-là, pareil à la feuille morte.